étant donné mon passé, disons, et mes activités actuelles, je vais vous parler effectivement de la médecine participative, enfin nommée telle qu'elle, et en particulier me concentrer sur ce qu'on appelle la télémédecine. Mais étant donné l'endroit où nous sommes, je pense que le mot télé ne vous fera pas peur particulièrement. Alors, la télémédecine va en particulier donc permettre de faciliter l'accès du client et ses interactions avec le médecin, on le verra par la suite. Mais quand on parle de santé participative, de médecine participative, de quoi parle-t-on exactement? Il ne s'agit pas seulement de comprendre, il s'agit vraiment d'être acteur. Et ça, encore une fois, l'exemple nous montrera par la suite, c'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul. Ça veut dire qu'il faut des technologies spécifiques, mais il y a un certain nombre de précautions à prendre également pour savoir jusqu'où on peut aller et ce que sont les limites, en quelque sorte, du modèle que l'on adopte. J'ai vu en arrivant ici, donc dans cet établissement, au niveau de l'accueil, qu'il fallait rapprocher les services donc, du patient, pas du patient, de l'utilisateur. Donc déjà ici, on a cette motivation effectivement de venir vers l'utilisateur. Pour ceux qui ont travaillé dans e-gov, donc le gouvernement électronique, disons, donner aux citoyens des outils qui lui permettent de participer à la vie collective, d'exprimer ses avis, etc., c'est également une démarche qui va dans ce sens. Et il y a pas mal d'innovations qui ont permis en fait cette démarche de prendre forme. Je pense en particulier à Web 2.0, etc. et d'autres. Il y a également au niveau du consommateur ce genre de préoccupation. Il y a de plus en plus de technologies, je pense en particulier au domaine de la télévision, dans lequel on peut effectivement privilégier l'utilisateur en lui donnant la possibilité donc de ne voir que ce qu'il a décidé de voir et de regarder ça quand il a décidé de regarder. Donc si vous voulez, il y a beaucoup de domaines, et je me limite à ceux-là pour l'instant, mais il y en a d'autres dans lesquels il y a effectivement cette démarche d'aller vers l'utilisateur, d'aller vers l'individu. Alors, s'il fallait qualifier ce type d'innovation dans les démarches et dans les technologies qui sont requises, on pourrait qualifier ceci d'innovation sociétale. Si on prend les définitions de l'innovation sociétale, telles qu'elles sont données par la London School de Business, en fait, c'est une solution apportée à un problème social, solution nouvelle, qui est évidemment plus efficace, plus efficiente, plus juste également que des solutions existantes, et qui va bénéficier à la société dans son ensemble. Voilà, si vous voulez, la définition d'une innovation sociétale. Et je pense que dans tout ce dont on va parler, on va effectivement aborder ces problèmes-là avec donc les deux aspects, l'impact au niveau de la société et l'innovation technologique qui a été à l'origine, disons, de cet impact. Donc voilà, si vous voulez, en gros, le cadre dans lequel on va discuter de la médecine participative. Il est intéressant de noter que le fait d'abord de parler du patient va permettre de sortir d'une démarche qui est celle que nous avons aujourd'hui, qui est une démarche très verticale. C'est-à-dire que quand vous allez chez votre médecin identifie si c'est un problème de cœur, si c'est un problème de foie, si c'est un problème de rein, et vous envoie donc un professionnel de la santé spécialisé dans une des différentes disciplines correspondantes. Donc la médecine actuelle est très verticalisée. S'occuper du patient, c'est s'occuper de sa santé en général, au sens où de l'OMS, lorsqu'elle a été créée, définissait le mot santé. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui inclut le bien-être et le mal-être, les deux ensemble. Et donc, si vous voulez s'occuper du patient, c'est lui apporter un certain nombre d'éléments qui pourront enrichir son bien-être, bien entendu, à travers son style de vie. Donc on va tenir compte de ce que mange le patient, du fait qu'il soit sportif ou qu'il soit statique. Et aujourd'hui, d'ailleurs, quand vous avez des questions d'un médecin, ces questions-là reviennent sans arrêt parce qu'effectivement, tout ça va conditionner un certain nombre de choses. Des informations qui vont être utiles pour la prévention elle-même. Donc on n'est pas encore dans les maladies aiguës qui vont vous amener à un hôpital, mais on est déjà en train d'essayer d'identifier des facteurs qui pourraient vous y amener par la suite. Le soin des maladies chroniques, hein, qui font partie effectivement de plus en plus de la vie des personnes âgées, étant donné que les personnes âgées cumulent même les maladies chroniques et ne se limitent pas à une seule maladie. Et puis évidemment, les soins à l'hôpital, qui eux sont la phase ultime en quelque sorte de cette chaîne, et qui sont ce qui coûte le plus cher, ce qui est le plus inconfortable, etc. Donc si vous voulez, s'occuper du patient, c'est s'occuper globalement de cet ensemble de facteurs dans ces différents stades. Et ça, c'est extrêmement important. Il y a des groupes comme Continua, qui sont des groupes à la fois d'hôpitaux et d'industries s'occupant de la santé, qui travaillent dans cette optique, et qui permettent de ne pas limiter donc le soin donné au patient au moment où le patient rentre dans le cabinet donc du professionnel de la santé, mais prennent en compte en fait tout ce qui était sa vie antérieure et tout ce qui a conditionné donc la situation dans laquelle il se trouve à ce moment-là. Pour le patient, quand on parle d'information qui est associée aux soins, où peut-il en fait pêcher de l'information? Comment peut-il recevoir de l'information? Toutes les régions, tous les départements, tous les États ont créé un moment ou un autre ce qu'on appelait des réseaux de soins, c'est-à-dire des réseaux qui relient tous les centres de soins, qui incluent donc les hôpitaux, les généralistes, etc., et qui permettent de les mettre en relation et qui leur permet d'échanger de l'information. Alors certains pays, certaines régions sont très avancées dans ce domaine et ont des réseaux de soins très bien établis, qui leur ont permis de développer donc le dossier médical du patient, la prescription électronique, etc. D'autres en sont encore à des effets d'annonce et d'autres n'ont pas encore commencé. Donc ça, en Europe, si vous voulez, cette situation-là n'est pas généralisée. Mais on voit bien que l'existence de ce réseau est importante, en particulier pour la continuité des soins. Si on veut vraiment être capable de suivre un patient et de suivre l'évolution de ses maladies, il est fondamental que, par exemple, le dossier médical électronique soit établi et puisse le suivre également, non seulement dans ses déplacements, mais à travers les différentes étapes de soins qu'on va lui donner. Donc, si vous voulez, le partage d'informations et le dossier médical, ce sont vraiment les éléments de continuité. Et bien entendu, il y a un certain nombre de protections au niveau de ces réseaux, donc qui sont bon, les protections qu'on peut imaginer au niveau des réseaux sécurisés, protection des données médicales, etc., qu'il faut mettre en place. Et un élément important dans ces réseaux, c'est l'interopérabilité, bien entendu, puisque ces différents centres de soins ayant élaboré des systèmes d'information pour le patient, sans interopérabilité, il est clair que les échanges d'informations sont impossibles. C'est vrai, encore une fois, entre les régions, c'est vrai également entre les États membres. Alors le patient, là-dedans, lui, va avoir deux rôles. Donc le patient va recevoir de l'information en ayant accès, par exemple, à des sites qui ont été développés par les différents centres de soins, etc. Alors il y a des informations de base qui sont, par exemple, les agendas des experts pour qu'ils sachent exactement à quelle heure ils peuvent prendre rendez-vous. Il y en a d'autres plus compliqués qui leur permettent effectivement de comprendre telle ou telle maladie, en fait, quelles sont ses implications, est-ce que bien, c'est bien ça que j'ai ou je n'ai pas, etc. Donc ça, aujourd'hui, on peut déjà le faire. Et puis, il y a également les informations qu'il va donner, et c'est là-dessus qu'on va se concentrer actuellement au niveau de la télémédecine. C'est-à-dire, le patient va donner des informations au réseau qui est là et qui sont des valeurs de paramètres spécifiques, que ce soit le pouls, que ce soit bon, le rythme cardiaque ou d'autres, qui permettront à des généralistes, à des hôpitaux, donc, de capter l'information, de l'analyser et puis également donc, de donner un diagnostic et de donner un traitement. Une remarque en passant, le patient donc, peut être suivi dans sa région. Mais il faut également que, s'il est mobile, il puisse être suivi également en dehors de sa région. Donc, même si c'est dans le même pays, il faut également qu'il y ait des possibilités donc, de bouger. La mobilité est importante. Et il faut également qu'il aille dans d'autres pays, qu'il puisse aller dans d'autres pays. Donc, ce dont on parle maintenant, en général, on le voit au niveau purement local. Mais voyez bien, et on parlera par la suite donc, des télécommunications, que les problèmes d'interopérabilité sont des problèmes extrêmement importants également à ce niveau-là. Si on prend le problème de la télémédecine précisément, Voilà en gros comment ça fonctionne. Et on voit bien la place du patient. Donc le patient, lui, donne un certain nombre, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc de données, des valeurs de paramètres spécifiques. Ces données donc, sont transmises à un certain centre de traitement d'analyse de données, qui peut être simplement le praticien qui va regarder ces données et en tirer un certain nombre de conclusions. Une analyse peut être faite également. Il peut y avoir également donc un certain nombre de supports donnés à la décision. Et puis tout ça donc est transmis à des hôpitaux, à des centres de soins pour être stocké, par exemple, dans le dossier médical. Et le tout ensuite va réalimenter en quelque sorte le patient. On va lui donner un diagnostic, on va lui donner des recommandations pour faire le traitement, etc. Là, vous avez un certain nombre d'innovations nécessaires en fait pour réaliser ce genre de schéma. Il y a des innovations technologiques nécessaires au niveau de l'acquisition des données, et il y en a d'autres qui le sont au niveau de l'analyse des signaux, d'autres qui sont nécessaires également au niveau de l'interopérabilité entre les données qui viennent du patient et celles qui vont alimenter l'hôpital, et puis également des problèmes donc de feedback en général, de mise en place de tout ce système, et en particulier des problèmes d'interfaçage entre l'extérieur, disons, du patient et puis tout le système qui est ici. Alors, premièrement, si on se concentre sur la façon d'extraire des valeurs de paramètres du patient, une des technologies qui a été développée, c'est les systèmes personnels de santé. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Eh bien, ce sont des systèmes qui peuvent prendre des formes très simples, comme par exemple une montre, des formes un peu plus sophistiquées comme des t-shirts ou bien des habits, disons, de ce type, ou bien également des technologies qui sont implantées directement, comme en particulier en télécardiologie. Et avec ces supports qui intègrent un certain nombre de composants technologiques, qui peuvent être des capteurs, des implants, etc., on peut donc mesurer les paramètres que l'on veut de cette façon-là. Ça permet un suivi donc en continu du patient, et ça permet également, une fois que le médecin a observé donc la valeur de ses paramètres, donc de recevoir un certain nombre de conseils et de recommandations en tout temps, à tout instant et en tout lieu. Et ça, c'est extrêmement important par rapport donc à la médecine traditionnelle, dans la mesure où ça permet donc de sortir des hôpitaux les patients, ça leur permet à la maison de bénéficier d'un plus grand confort. Et ça permet également au médecin de n'intervenir que lorsque vraiment son intervention est requise. Donc c'est une nouvelle génération d'outils de soins qui sont centrés sur la personne essentiellement. La personne d'ailleurs n'est pas nécessairement obligée d'utiliser des technologies avancées de ce type. C'est-à-dire que dans beaucoup de cas, on va demander à la personne de lire simplement des informations qui sont par exemple son poids le matin, ou bien prendre sa tension, puisque maintenant la personne peut prendre sa tension et puis transmettre elle-même cette information par ordinateur, par exemple, donc à un centre de soins. Donc, si vous voulez, ce type de technologie avancée n'est pas indispensable, mais il est important, donc en tout cas, donc, de permettre à ces soins de santé d'être donnés de cette façon, pour permettre en particulier une approche préventive de la santé. Le suivi de cette façon-là permet donc d'anticiper des problèmes qui peuvent se déclencher à un moment ou à un autre, et d'anticiper donc les problèmes de déclenchement d'une maladie en stade aigu, et qui donc devrait conduire à l'hôpital le patient avec tous les problèmes d'inconfort et de coûts que ça peut occasionner. Pour les individus, c'est clair que ce type de technologie apporte donc des aspects éducatifs importants, place vraiment l'individu en tant qu'acteur dans ses soins de santé, et l'amène à un niveau, disons, ici c'est le jeu de mots, disons, classique en anglais, de responsibility et responsibility. Ça c'est bon, Mais en tout cas, la responsabilité, son engagement, est quelque chose qui est extrêmement important et qui pose des problèmes par la suite. D'ailleurs, on verra que cet aspect positif est associé à une limitation par la suite. Pour le médecin, comme je disais tout à l'heure, est délivré d'une charge qui est la charge de la pression de tous les instants, et donc il peut intervenir quand il décide d'intervenir. Il peut identifier des signes précoces, donc pour une réaction plus rapide, et il a éventuellement, s'il en a besoin, une aide à la décision appropriée. Un exemple donc de technologie de ce type, c'est un système qui a été mis au point dans un projet européen donc dirigé par Philips. Là, c'est le système qu'on appelle MyHeart, dans lequel donc il y a divers supports qui sont associés. Il y a par exemple un t-shirt qui permet donc d'avoir toujours avec les technologies intégrées, si vous voulez, dont j'ai parlé tout à l'heure, donc un certain nombre de paramètres qui vont être mesurés, qui vont être gérés par le patient lui-même. Associé à des technologies comme le lit, par exemple, qui permettront d'analyser les mêmes paramètres pendant la nuit, d'analyser également le comportement du malade pendant la nuit dans un certain nombre de maladies, et puis également un certain nombre donc de technologies autres, par exemple pour les problèmes de défibrillation, vous avez des systèmes donc qui sont un système implanté, qui permettent donc de suivre l'électrocardiogramme. Autre niveau donc d'innovation, ce sont tous les interfaces avec l'utilisateur. C'est certain qu'il faut absolument que des personnes qui ne sont pas spécialisées dans le domaine de la santé puissent comprendre et interagir facilement. La télévision, interactive, qui n'a pas de prétention aujourd'hui, à être très innovante, apporte énormément de toute façon, et en particulier pour les personnes âgées, pour différentes raisons. Facilité d'utilisation donc dans la discussion avec le médecin. Le problème de l'éducation également par des vidéos qui sont personnalisées. Et puis également donc un certain nombre l'interactivité en soi est importante, on le disait tout à l'heure, mais également donc maintenir la motivation donc du patient est une dimension importante également. Tout ce dont on a parlé va se faire ou se fait déjà, en particulier en télécardiologie, de façon par des technologies mobiles. C'est clair qu'on pourrait même dire que la télémédecine sera mobile ou ne sera pas. On ne peut pas imaginer, de toute façon, maintenir à la maison, sauf pour des raisons dramatiques, des personnes sous prétexte de suivre leur glycémie. Il faudra bien que l'on ait effectivement des technologies qui permettent à la personne de se déplacer, et puis également donc le feedback loop, etc., se mettre en place dans ce contexte-là. Futur également, c'est pour aller vers plus de personnalisation. Ces systèmes donc personnalisés, donc actuellement, sont limités à un certain nombre de paramètres et les valeurs brutes sont des valeurs qui sont transmises. Mais en fait, il y a un certain nombre de choses que l'on ne peut pas encore motiver, en particulier, par exemple, le niveau d'émotion, qui peut avoir un impact important au niveau, par exemple, de la valeur donc de la pression sanguine, ou un certain nombre de données, en fait, qui aujourd'hui ne sont pas traduites ou prises en compte, qui sont en particulier les données génétiques. Et il est important d'associer à chaque valeur de paramètre, le contexte dans lequel donc ce paramètre a été mesuré pour permettre d'éviter des erreurs d'interprétation ultérieures. Ensuite, il y a des problèmes que l'on n'est pas capable non plus de mesurer aujourd'hui et qui sont les niveaux de spécificité relatifs à chaque patient. On sait que certaines personnes avec un niveau de pression sanguine de 16 peuvent être considérées comme étant un niveau satisfaisant et d'autres pour lesquelles c'est tout à fait exagéré. Donc si vous voulez ce genre de choses-là, il faut pouvoir le personnaliser donc dans les outils de suivi que l'on a afin de réduire les fausses alarmes et d'améliorer les conditions les conditions médicales. Je ne vais pas commenter en détail ce tableau. Je pense qu'il est important parce qu'il traduit bien la façon dont on va évoluer. On a déjà commencé, mais on va continuer à évoluer. Donc depuis un modèle qui est traditionnel, en fait, de soins de santé, vers un modèle qui est nouveau et qui demandera beaucoup donc d'innovation ultérieurement. Alors en particulier, donc aujourd'hui, tout le système de santé est centré encore sur la maladie elle-même. Ça, c'était le deuxième transparent que je vous ai montré tout à l'heure. De plus en plus, donc, ce système de santé sera centré sur le patient et prendra en compte non seulement la maladie, mais prendra en compte le bien-être en général. Donc, encore une fois, dans une optique différente et horizontale, comme je vous l'ai commenté tout à l'heure. Celui qui distribue les soins, aujourd'hui, c'est le professionnel de santé. On peut donc parier que dans les années qui viennent, bien sûr, celui qui prendra la décision sera toujours le personnel de santé, mais le patient participera à cette décision. et puis également ce qui l'entoure. Il ne faut pas oublier qu'en télémédecine, quand on fait par exemple des suivis de personnes à la maison, la femme, le fils, ou enfin les éléments de la famille sont là, les voisins, en tout cas quelqu'un pour aider le patient. Et que de plus en plus, donc ce que les Anglais appellent « informal carer », seront effectivement impliqués dans les soins qui sont donnés. Donc, si vous voulez, c'est un élément extrêmement important et je parie que les versions, disons, à suivre du décret là, qu'on a vu paraître sur la télémédecine prendront en compte le besoin de former non pas seulement les professionnels de la santé, mais également le patient et puis ceux qui sont avec lui. Un autre élément important, c'est que jusqu'à présent, lorsqu'on parle de l'endroit où on soigne le patient, on pense à l'hôpital, on pense au bureau médical, ce sera toujours le cas, bien sûr, mais il y aura également donc la maison, par exemple, puisque au niveau de la télémédecine, on apporte les soins en quelque sorte au domicile. Donc il y aura beaucoup de modifications qui vont naître du développement de ces technologies, et qui seront certainement importantes. Je pense que c'est l'étape suivante à franchir, parce que dans l'état actuel des choses, on a des technologies comme la télémédecine qui ont été acceptées, entérinées par un décret. On dit très bien que c'est un acte médical, mais le reste n'a pas encore suivi. Et je pense que c'est là qu'il va falloir travailler maintenant. Alors, les promesses de cette approche participative, il y en a beaucoup, bien sûr, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il y a plus de motivation, c'est certain, le patient est très motivé, très satisfait également, quand on prend l'exemple de la télémédecine, le taux de satisfaction des participants aux expériences de télémédecine ou aux pilotes est de l'ordre de 70 à 80%. Donc, si vous voulez, il y a un haut degré de participation qui est intéressant. Les coûts sont réduits, alors évidemment, ce n'est pas un objectif en soi au niveau de la médecine, ce serait plutôt l'amélioration de la qualité. Il faut savoir quand même qu'au niveau donc des évaluations partielles qui ont été faites sur les expériences de télémédecine, il y a par exemple 30% des lits d'hôpitaux donc, qui ne sont plus occupés. Donc on peut sauver, comme on dit en anglais, donc 30% des coûts au niveau hospitalier. Et la durée du séjour en hôpital est réduite également. Plus de confort, bien sûr. Tous les patients, quand on leur demande, préfèrent être soignés chez eux plutôt qu'à l'hôpital, et c'est normal. Malgré la bonne qualité de la nourriture hospitalière. La qualité des soins est un autre facteur important. L'implication des proches, je vous en ai parlé tout à l'heure, et puis la qualité de la coopération avec les professionnels, encore une fois, au moment où on a choisi effectivement d'avoir cette coopération. Ça, c'est un point de vue personnel. Je ne veux pas vous dire que c'est le résultat d'une réflexion collective, ni que ça reflète la position de la commission ou de qui que ce soit d'autre. Je pense que le fait de vouloir partager la connaissance dans le domaine médical est beaucoup plus complexe que dans tout autre domaine. Pour différentes raisons, d'abord cette connaissance, on a parlé tout à l'heure de e-gov, par exemple, comme autre domaine dans lequel la participation du citoyen est encouragée. Je pense que ce que le citoyen a besoin de connaître est bien moindre que ce que le patient aurait besoin de connaître pour comprendre effectivement sa maladie. On ne peut pas, si vous voulez, en quelques heures de lecture, par exemple sur un site web, comprendre ce que plusieurs années d'études de médecine ont enseigné à un spécialiste. Donc, si vous voulez, le gros problème, ce n'est pas de connaître moins. Le problème, c'est de comprendre jusqu'où on connaît. C'est d'apprécier les limites de sa propre connaissance, de sa propre ignorance. Et je ne pense pas qu'un patient, de façon générale, puisse le faire. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement dangereux à ce niveau-là de s'engager aveuglément sans être capable de mettre une barrière, de savoir jusqu'où on peut aller. Il y a beaucoup d'approches aujourd'hui, par exemple en médecine, en particulier dans les pays anglo-saxons, où on parle de self-care, où on parle d'automédication, où on parle de choses de ce type. Il faut savoir que jusqu'où ça peut conduire. On voit aujourd'hui les problèmes de médicaments en France et les derniers scandales qui ont éclaté. S'il n'y a pas des barrières à un moment donné qui sont mises, il est certain que là, ça peut entraîner effectivement des accidents en pagaille. Donc tout ça est dangereux. Et en gros, si vous voulez, si on veut vraiment faire du patient un consommateur sans plus, Je pense que l'approche qui est l'approche participative risque d'être très dangereuse. Donc, si vous voulez, il y a vraiment un certain nombre de choses vraiment à cogiter là-dessus. Et si vous lisez, par exemple, la loi du 4 mars 2002 sur les droits et les responsabilités du patient, je me suis amusé à regarder si on y trouvait quelque chose sur la participation, la réponse est négative. On autorise, si vous voulez, le patient à aller regarder sur des sites, mais qui sont les centres régionaux, en particulier dans les réseaux régionaux de santé, à s'enquérir des résultats, effectivement, des différentes analyses qu'il a eues, etc. Et on lui propose de se faire aider par un professionnel de santé pour comprendre ce que ça veut dire, mais on ne lui donne pas la possibilité de devenir vraiment un acteur. Donc je pense qu'il serait important à ce niveau-là qu'il y ait dans une loi équivalente, ou en tout cas la possibilité donc d'ouvrir un peu de ce côté-là, mais en définissant clairement les limites. Et même chose pour les limites relatives à la responsabilité. Si on veut vraiment que le patient devienne acteur au sens plein du terme, il est normal qu'il participe à la responsabilité également de l'acte médical. C'est-à-dire que s'il peut prendre des initiatives, il est clair que sa responsabilité peut être engagée. Et que la responsabilité d'un patient peut entraîner des modifications dans la responsabilité du médecin. Je prends un exemple qui est tout simple, qui est le problème de la télémédecine, avec la possibilité donc de déléguer une partie de la décision du médecin vers un autre collègue. C'est ce qu'on appelle la seconde opinion. Donc un médecin ne prend pas la décision, mais se tourne vers un autre confrère pour lui demander ce qu'il en pense et prend la décision en conséquence. Là, il y a effectivement, sur le plan, disons, de la loi, une définition claire qui permet de savoir qui est responsable en cas d'erreur. Mais si le patient intervient et demande que le collègue qui va être le confrère, qui sera donc consulté, soit une personne de son entourage ou soit quelqu'un, un médecin qu'il connaît, est-ce que le médecin qu'il a été consulté peut encore s'engager et accepter de prendre une responsabilité ? Certainement pas. Ça veut dire qu'il y a en fait un certain type de situation qu'il faut envisager et dans laquelle l'engagement d'un acteur qui est le patient change la responsabilité telle qu'elle existe aujourd'hui. Donc je pense que les choses ne sont pas aussi faciles qu'on peut le voir. C'est certainement plus compliqué que dans e-gov et des précautions, à mon avis, s'imposent. Voilà. Je vous remercie.
Merci. Nous avons le temps pour quelques questions à M. Gérard Comines. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Oui, une question. Merci de vous présenter, s'il vous plaît.
Oui, bonjour, Gérard Cornet. Nous avons eu l'occasion de travailler dans des projets européens. Je suis géontologue, membre de la Société française de technologie pour l'autonomie et la géotechnologie. Et alors, j'ai écouté avec grande attention votre intervention et celle de M. Picard, et je me pose plusieurs questions par rapport à la télémédecine et ce que vous avez dit. En voyant la priorité qui est accordée à la diminution des coûts, à la maîtrise des coûts de santé, je me demande si cette priorité n'a pas pris le pas sur la qualité des soins. Il y a effectivement, quand on analyse d'ailleurs le décret sur la télémédecine, toute une série d'obstacles à sa mise en place, de freins, quand on voit aussi l'organisation centralisée sur les partages des données médicales, alors que les gens voyagent en Europe, on se dit mais pourquoi est-ce que on a créé des systèmes aussi centralisés qui ne communiquent pas entre eux? Il y a eu des systèmes proposés comme le dossier médical portable partagé qui se sont heurtés à cette logique-là. Je m'interroge là-dessus en disant, est-ce qu'on est vraiment centré sur le patient ou centré sur la réduction des coûts ?
Il y a plusieurs choses dans votre, plusieurs aspects dans votre question. D'abord, il ne faut pas confondre réduire les coûts avec la création du DMP, l'avoir implémenté qu'on a choisi de le faire. Non, ça c'est un autre problème. Enfin, mais ça, je vais y revenir tout de suite. Réduire les coûts, c'est un. Si on veut, si on peut, de façon, disons, annexe, réduire les coûts, tant mieux. Mais il est clair que ça ne devrait jamais être l'objectif majeur. Je vais prendre l'exemple de la téléradiologie. Aujourd'hui, la téléradiologie est de fait utilisée dans des pays où il y a un manque donc, d'experts dans ce domaine. Je prends l'exemple de la. De l'Angleterre, où il y a 2000 radiologues au lieu des 10 000 dont ils auraient besoin. Donc il y a une carence grave. Bon. À côté, vous avez la Belgique, dans laquelle vous avez trop de radiologues. Donc il y a en Belgique donc, des centres de téléradiologie qui interagissent avec l'Angleterre, et donc il y a des radiologues en Belgique qui font le travail, entre guillemets, donc, de leurs confrères anglais, et qui leur donc, envoient, qui analysent et qui envoient les résultats de leurs analyses à la. Alors, confrère. Donc ça, ça s'est mis en place. Mais le but dans cette initiative-là n'était pas, si vous voulez, de réduire un nombre de radiologues. Si vraiment il y avait une volonté de réduire le nombre de radiologues par la téléradiologie, ce serait grave. Et ce serait à éviter à tout prix. Donc là, si vous voulez parler en termes de danger de la téléradiologie, le danger de la téléradiologie, c'est la possibilité de créer une entreprise avec des personnes dont le niveau de qualification n'est pas vérifié. Bon, là, effectivement, il y aurait un risque réel. Et c'est la situation actuelle. Ça n'est pas lié à des problèmes de coûts. Au niveau du dossier médical, le choix qui a été fait en France est le fait que nous soyons, par essence, centralisés. On ne sait rien faire d'autre. Il faut dire des choses comme elles sont. Si vous allez voir en fait les d'autres pays, pratiquement tous les pays d'ailleurs en Europe, les régions ont un poids très important et ont une capacité à prendre des initiatives. Donc si vous allez en Espagne, enfin je connais bien, ça tombe comme ça, en Espagne, chaque région peut définir son propre système de soins en fonction donc d'un certain nombre de critères, le nombre de grandes villes, de petites villes, créer des soins, etc. C'est un peu un problème de gestion du territoire, et puis ensuite mettre en place le système informatique le plus adapté qu'il faut. Donc vous allez en Andalousie, vous avez un bon exemple, qui va être différent d'une autre province qui, elle, va être réduite à une seule grande ville avec donc une sorte de désert tout autour. Donc vous allez avoir des solutions informatiques qui reflètent ce qu'est la région elle-même. Et le niveau central, au niveau de l'État, il définit la loi. C'est clair. Il définit les infrastructures et puis il assure l'interopérabilité entre les régions. Voilà, si vous voulez, le rôle de l'État par rapport au rôle des régions. On est incapable de faire ça en France. Et ça n'a rien à voir avec le coût. C'est un problème culturel, fondamental. Et quand on dit, mais on a de toute façon les délégations régionales, etc., au niveau de la santé, etc., oui, bien sûr, elles sont là, mais elles ne font que refléter des solutions qui ont été bombardées par, effectivement, le niveau central. Chaque région ne peut pas définir son DMP, c'est pas possible. Donc, si vous voulez, vous avez un problème de conception à la base qui est culturel. Je pense absolument pas que le problème financier soit engagé.
Alors, justement, sur le plan européen, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des référentiels, comme on le cherche toujours, définissant pour tous les États une directive définissant des référentiels qualité et d'interopérabilité? Ça n'existe pas dans l'éthique santé aujourd'hui. Et il n'y a pas de référentiel formation non plus, alors qu'on voit que la formation de tous les acteurs est indispensable.
Mais il y a au niveau de l'interopérabilité, par exemple, un travail collectif par un groupe de représentants des États membres, la Commission finançant leurs activités pour créer une interopérabilité entre les différents systèmes. Ceci étant, si vous prenez l'exemple de la France, c'est certain que la France aurait pu commencer beaucoup plus tôt à mettre en œuvre son système de dossiers en reprenant un des systèmes qui existent déjà et en l'adaptant au mieux au système de soins local. Mais encore une fois, ça, il ne faut pas mélanger les problèmes. Si vous voulez, le problème de la France, nul n'a la possibilité d'imposer de toute façon à la France le système qu'elle a choisi. C'est clair. Mais effectivement, dans ce cas-là, il y avait moyen de faire plus vite et de façon optimisée interopérabilité, c'est sûr.
Oui, je voudrais intervenir sur la question qui était posée concernant les coûts et la télémédecine, parce que ce sujet a fait l'objet d'une réflexion approfondie dans la préparation de ce qu'on appelait le grand emprunt d'avenir, dans lequel il y a une coopération étroite entre la DG6 et la délégation à la stratégie, avec participation de la ZIP Santé et du Conseil général de l'industrie. Donc j'évoque ce point sans être trop précis. On sait bien qu'un des objectifs majeur pour la réduction des coûts de santé, c'est de réduire les durées d'hospitalisation, parce que le coût de la journée d'hospitalisation est très élevé, et il est notamment beaucoup plus que le coût d'une journée d'un lit dans un établissement de longue durée, et lequel est plus élevé que le coût d'une journée à domicile. Donc la question, c'est qu'il faut que, quand on réduit ses jours, on laisse partir une personne qui est moins stabilisé quant à son état de santé. Et donc, ce qu'il faut éviter, c'est que 3 jours après, elle se présente aux urgences parce qu'il s'est passé quelque chose de grave. Donc, la seule façon, finalement, de réduire ces durées d'hospitalisation, c'est d'avoir ce que j'appellerais dans le jargon, hors hôpital, un environnement sécure. Et pour avoir un environnement sécure, ça veut dire qu'il faut être en mesure, en effet, d'exercer de vigilance sur le patient une fois qu'il est sorti. Et comment le faire sans mettre en œuvre effectivement des solutions de télémédecine, télésanté. Donc il y a très vraisemblablement, au niveau financement, une partie de transfert de financement des budgets hospitaliers vers le médico-social. Évidemment, la concentration de l'hôpital sur son cœur de métier, qui s'accompagne vraisemblablement d'un abandon de fonctions historiques de médico-social hospitalière, hein, les hospices, c'était fait pour accueillir les gens. Eh bien, cette concentration-là, elle est aussi nécessaire pour que les technologies avancées dont on a besoin au niveau de l'hôpital lui-même puissent, de leur côté, être financées. Bon, voilà, ça c'était un élément de réponse, un élément d'éclairage français, en tout cas, sur cette question qui me semble importante. Alors je voudrais derrière faire une remarque qui est aussi une question. Pour moi, enfin, vous avez cité, Monsieur Comine, la loi de 2002. Quand on parle de participation, il y a une autre loi qu'on peut évoquer, c'est la loi de 2005, c'est-à-dire celle concernant les droits des personnes handicapées. Et je crois qu'en matière de technologie, la question, elle est double en termes de participation. Elle est celle de l'accessibilité des personnes à des services informationnels de santé, par exemple, donc l'accessibilité au sens handicap des sites d'information de santé, et puis bien entendu tout ce que les technologies peuvent apporter à ces personnes dans les interfaces, dans les moyens de substitution sensorielle, etc., qui leur permettent effectivement d'être citoyens. Et je crois que ça, c'est aussi une question de santé participative. Je ne sais pas comment vous réagissez là-dessus.
Non, mais c'est vrai. Enfin, la loi 2005 fait référence à la loi 2002 comme cadre général. Et donc, je pense que s'il fallait améliorer quelque chose, ce serait au niveau, disons, du contexte global tel qu'il est défini dans la loi de 2002.
Une petite question. Vous avez insisté à juste titre sur à la fois les limites des capacités cognitives des patients, en termes de compréhension des affections qui peuvent les toucher, et puis ce problème de la responsabilité partagée, pas partagée, entre le professionnel de santé et le patient. Et on sait bien que dans certaines affections, notamment les affections psychiatriques, c'est un problème qui est particulièrement aigu. Alors une des questions que je souhaitais vous poser, est-ce que vous croyez ou vous ne croyez pas à des possibilités, je dirais, de système de médiation entre le patient et le professionnel de santé? Est-ce qu'il y a moyen de jouer quelque part une médiation qui permette justement de résoudre en partie cette difficulté entre le professionnel et le patient?
Le problème est de savoir ce que vous entendez par système de médiation. Si c'est un système d'intelligence artificielle tel qu'on les a définis en long, en large et en travers, je pense, dans les 20 années qui précèdent, je n'y crois pas pour une raison simple, c'est que dès que la sémantique est engagée, les systèmes ne sont plus décisionnels. Donc il faut qu'à un moment ou à un autre, c'est un peu comme les problèmes de traducteurs automatiques, etc., dans un contexte réduit, on sait que la décision est possible. Dans un système qui n'est pas effectif, dans un contexte qui n'est pas défini, on est incapable de toute façon de résoudre quoi que ce soit. Je pense que ces systèmes de médiation sont des systèmes qui sont extrêmement fins dans l'analyse, et qui, en psychiatrie, c'est quelque chose évidemment qui est extrêmement difficile et délicat, Et je vois mal un système prédéfini, en quelque sorte, se dépêtrer en fait, de la finesse de ce type d'analyse. Je peux me tromper, hein, mais je vois mal.
Marcel Graziani, je pense que dans la responsabilité, quand la personne n'est pas en mesure d'apporter son accord, il y a la personne de confiance qui a été instaurée et donc qui est en mesure de parler à la place de la personne qui est dans l'incapacité.
Mais vous posez bien le doigt sur le problème. C'est que encore faut-il être capable de dire qu'on n'est pas en mesure d'eux. Et la grosse difficulté, c'est que précisément, les limites de sa propre connaissance ou de sa propre ignorance, on est incapable de définir précisément. Vous allez lire un texte sur, je prends un exemple, les hommes après un certain âge sont très angoissés par la prostate, c'est clair. Et vous avez à un moment donné, vous allez lire effectivement ce qui concerne le cancer de la prostate, vous allez être convaincu que vous l'avez, c'est évident. Enfin, si vous voulez, la valse des hypochondriaques, certainement, est le plus gros danger qui menace les généralistes. Parce que en lisant, effectivement, ce qui traîne dans les traités de médecine, je pense, si vous voulez, que c'est un danger qui est tout à fait clair. Donc, mesurer exactement ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas, c'est la difficulté essentielle. Et à mon avis, on n'est pas prêt d'en sortir. C'est pas un problème facile, hein. Je crois que, encore une fois, je suis même pas certain d'avoir raison. Peut-être qu'on trouvera des façons simples de s'en sortir. Mais je pense que c'est un problème délicat et auquel il faut bien réfléchir.